Vous êtes heureux si vous pouvez chanter ces cantiques, je n'ai que Jésus, pour me relever. Si vous avez pu chanter ces cantiques, vraiment vous êtes heureux, croyez-moi. Nous allons faire trois lectures, s'il vous plaît, très courtes, mais qui vont nous permettre de savoir chacun où nous en sommes avec le Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 19e. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Dieu était en Christ. Dans les Romains, au chapitre 10, juste avant, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 10, verset 8, il y a un texte également de l'apôtre Paul qui parle de la façon dont nous pouvons confesser nos convictions, nos expériences. Romains, chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Et une autre lecture dans l'Évangile de Marc, où le Seigneur va poser deux questions. Ces deux questions, le Seigneur peut nous les poser cet après-midi. Lisons-les ensemble, l'Évangile de Marc, chapitre 8, verset 27. Vous aimez quand on vous pose des questions? Est-ce que vous aimez? Oui? Est-ce que vous aimez que Dieu vous pose des questions? Oui, vous savez très bien que ce ne sera pas des questions pièges. Ce sera des questions sérieuses, même si elles peuvent être sévères, elles sont importantes. Dans Marc, chapitre 8, donc, au verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Et il leur posa en chemin cette question. Qui suis-je au dire des hommes? Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Amen. Voilà donc trois petits textes qui nous permettent d'en arriver à celui que l'on vient de lire. Jésus pose une question, qui suis-je au dire des hommes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit sur Jésus? Est-ce que vous vous rendez compte tout ce que l'on dit du Seigneur Jésus-Christ? Dieu a voulu parler. Il a utilisé cette question comme un sondage. C'est comme un sondage. Qui suis-je au dire des hommes? Dieu parle, la Bible dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, il parlait par la nature. Il a utilisé un cep pour expliquer que lui était le cep et que nous étions les sarments. Dieu parle par plusieurs illustrations, par plusieurs images, par la vie quotidienne, etc. Mais là, il fait un sondage. Il fait un sondage, ça n'a rien à voir avec les sondages que les hommes font aujourd'hui pour essayer de manipuler la société, pour faire ce qu'on appelle de la démagogie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le Seigneur pose des questions, non pas de manière démagogique, mais pour que nous soyons à même de réaliser où nous en sommes avec lui. La première question, elle est générale. Qui dit-on que je suis? La dernière, elle est personnelle. Qui dites-vous que je suis? Alors, bien sûr que pour les uns, ça varie. Vous avez vu, c'est Jean-Baptiste. D'ailleurs, Hérode a cru que... Vous savez, la superstition. Les gens sont très superstitieux aujourd'hui. Très, 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 très superstitieux. Ils ne croient pas en Dieu, mais ils sont superstitieux. Il avait fait décapiter Jean-Baptiste, et quand il a appris que Jésus faisait certaines choses, il a dit, oh, c'est peut-être Jean-Baptiste qui est ressuscité. Pour d'autres, on pensait que c'était Élie. C'est vrai qu'Élie avait un ministère particulier, il avait fait certains miracles, qui étaient quand même quelque chose, et certains ont dit qu'il a eu une ressemblance avec le ministère d'Élie, donc peut-être que c'est lui. Vous avez vu? Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es le prophète Élie. Mais notre génération, aujourd'hui, bon là ça part, on parle de 2000 ans, aujourd'hui si vous deviez aller à la place du Capitole et faire un sondage, voilà, que pensez-vous de Jésus? D'après vous, qu'est-ce que les gens répondraient? Sérieusement, je vous pose une question, parce que Jésus a posé cette question, donc c'est sérieux, il la pose d'une manière générale, puis il la pose d'une manière personnelle. Tout ça, c'est pas Jésus ne voulait pas savoir ce qu'on pensait de lui pour savoir ce qu'on pensait de lui. Il voulait que nous en arrivions tous à quelque chose de solennel, c'est que de toute façon, tous les hommes devront répondre à cette question. Tous. Tous les hommes qui auront vécu sur la terre devront répondre solennellement à cette question. Qui dit-on que je suis? Pour beaucoup, c'est un philosophe. On entend parfois des gens dire, mais c'est-à-dire tous les philosophes vous diront que Jésus était un philosophe. Certains vous diront que c'était un idéaliste. Il avait un idéal, il se l'est fixé, il voulait faire ceci, il voulait changer les choses, il voulait créer une nouvelle religion, alors il en est mort en martyr. Voyez donc, c'est un idéaliste, mais c'est un martyr. Ah, le pauvre, il s'est fait avoir, ça n'a pas marché son affaire, il voulait changer les choses, et bien on l'a crucifié, c'est un martyr. On dit aujourd'hui que c'est une illuminée. Souvent on entend cette expression. Elle est biblique, dans le sens où certains ont dit, mais il est fou. Vous vous rappelez, même dans sa famille. Il y a des versions qui disent insensé, il y a des versions qui disent, mais il est fou. C'est un mystique. Vous vous rendez compte, cet homme, il dit qu'il est Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Vous avez vu tous ces textes où Jésus s'identifie à Dieu quand il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez à moi, il se mettait l'égal de Dieu. Et ça n'a pas plu à beaucoup de gens parce qu'il se faisait Dieu. Il y en a qui disent que c'est un personnage historique. Aujourd'hui, si vous écoutez un peu à la période de Noël, on dit que c'est un personnage historique. Il a vécu il y a longtemps, il a fait du bien, il était là en Israël, il a vécu certaines choses. Bon, même le calendrier, c'est bizarre, mais même on a fait partir le calendrier à partir de sa naissance. C'était quand même quelqu'un d'historique, c'est sûr. D'ailleurs, certains vous diront, mais c'est un grand homme, Jésus. C'est quelqu'un de merveilleux, il a fait des choses extraordinaires. Si c'est vrai tout ça, bon, c'était quand même moraliste. Quand vous lisez la Bible, c'est rempli de morale, tout ça. Bon, on pourrait continuer tout l'après-midi. Mais quel que soit tout ce que les hommes peuvent dire, ce sera toujours presque misérable en comparaison de ce que Jésus il est vraiment. Et tout ce qu'on pourra dire de cette façon que je viens de décrire ne pourra que rabaisser ce qu'il est vraiment. Quand vous lisez certaines histoires dans l'Évangile, je pense par exemple à l'aveugle-né. Vous connaissez cet homme qui était un aveugle-né? Il était né aveugle. Et un jour, Jésus se présente sur son chemin. Les apôtres vont lui poser même la question, Jésus, mais qui a péché? Vous voyez, pour vous dire combien on est accaparé par la religiosité. Qui a péché? Lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Vous voyez, jusqu'où on peut en arriver? Et Jésus a dit, mais ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Vous savez, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui vont très mal. Mais si le Saint-Esprit venait à se saisir d'une église ou de frères et de sœurs qui obéiront vraiment, entièrement, eh bien nous verrons ces choses se reproduire. Cet homme donc, on va lui poser la question une fois qu'il a été guéri, mais qui c'est qui t'a guéri? Alors au début, il va répondre, mais l'homme qu'on appelle Jésus. Et puis après, il va dire, non, c'est un prophète. Personne ne peut faire ce qu'il fait si c'est un prophète. Et la troisième fois, il rencontre le Seigneur Jésus. Et là, il se prosterne devant lui. Il reconnaît que Jésus-Christ est plus qu'un homme, plus qu'un prophète. Mais il est le sauveur du monde. On le voit également avec la Samaritaine. La Samaritaine. C'est exactement la même chose. Au début, elle dit, elle croit qu'elle a affaire qu'à un juif. Qui est là, au bord du puits, tiens, qu'est-ce qu'il fait là, ce juif, voyez? Et puis après, elle dit, c'est un prophète, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et puis après, lorsqu'elle témoigne, ne serait-ce pas le Messie? Donc, il y a, lorsque nous sommes en contact avec la parole de Dieu, avec le Seigneur, Jésus grandit dans notre cœur. Je pense que c'est ce qui se passe dans votre vie. Est-ce que Jésus grandit dans votre cœur? Je l'espère vraiment que le Seigneur a de plus en plus de place dans votre vie. Oui, le Seigneur n'est pas un illuminé, un philosophe, un historien, et tout ce que vous voudrez, et j'en passe. La Bible, on l'a lu, Dieu était en Christ. Gloire à Dieu. Personne ne pourra jamais assez remercier le Seigneur de cette révélation. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Christ est Dieu. Ce n'est pas accepté aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Même dans certaines de nos assemblées, on a entendu que Jésus n'était pas Dieu. La Bible est catégorique, Jésus-Christ est Dieu incarné. Dieu qui s'est fait homme, Dieu qui a abandonné sa gloire pour venir dans le corps de la Vierge Marie, il est né comme un homme, il s'est fait homme, il s'appelait d'ailleurs le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, il s'appelait. Vous avez remarqué, tout le temps, il s'appelait le Fils de l'homme. Voilà. Et il est plus grand qu'un homme. Il est plus grand qu'un prophète. Il est le Dieu incarné et il est mort sur la croix pour vous sauver. Quelle bénédiction! Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Mais nous devons en arriver à cette expérience profonde de ce que la Bible appelle la repentance, la conversion. Jésus a dit, repentez-vous. Convertissez-vous, naissez de nouveau, même à l'homme le plus élevé d'Israël, le docteur d'Israël, Jésus a dit, mais si tu ne nais pas de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Au docteur d'Israël, c'est-à-dire le pasteur des pasteurs, et Jésus lui a dit, mais si tu ne nais de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Alors, c'est clair que c'est bien de savoir ce que les autres pensent. Est-ce que ça vous intéresse, vous, de savoir, tiens, qu'est-ce que pense M. Dupont de Jésus? Est-ce que c'est important? Qu'est-ce que les Toulousains pensent de Jésus? Qu'est-ce que les Africains pensent de Jésus? Qu'est-ce que les Canadiens pensent de Jésus? Etc. Mais la question, verset 29, si vous avez gardé votre Bible ouverte, Jésus va plus loin, parce que c'est bien de parler des autres, c'est bien, mais ça ne sert à rien en vérité. Il faut que nous-mêmes, nous puissions répondre à une question. Et vous, verset 29, et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Et vous? Oui, il est facile ou pas compliqué de rapporter ce que les autres disent. Mais personnellement, vous, cet après-midi, qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Qui dites-vous qu'il est? Qui est Jésus pour vous? Parce que je vous assure, l'autre jour j'étais à Albi, au culte, et à la fin il y a un monsieur qui est venu me voir, qui se disait chrétien, et quand j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, écoutez monsieur, il faut vous repentir, il vous faut vous convertir, il vous faut donner vraiment votre vie à Jésus-Christ. Et le gars il se disait, chrétien, si Jésus pose la question, et vous, qui dites-vous que je suis? Et c'est Pierre qui va répondre, Pierre qui va répondre, tu es le Christ. Ailleurs il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous connaissez la réponse que Jésus va adresser à Pierre? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Nous avons parlé ce matin de Daniel, qui était ce bien-aimé, parce qu'il voulait savoir les choses qui concernent le dessein de Dieu. Et Dieu le lui a révélé. Eh bien, Pierre, à un moment donné, a dû vraiment rechercher la communion avec Dieu, puisque Jésus lui dit, mais ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. D'où la notion de chercher, de comprendre, de lire la Bible, de laisser le Seigneur nous parler, comme Daniel, je reviens à lui parce que j'ai parlé de lui ce matin, il comprit par les livres qu'il devait se passer quelque chose. Mes frères et sœurs, si aujourd'hui nous sommes soucieux de comprendre le plan de Dieu, laissez-moi vous dire qu'on peut comprendre par les livres, par le Saint-Livre, que certaines choses vont se passer sur la terre. Nous le savons, et d'un côté, des choses terribles vont arriver, et de l'autre, nous savons que nous pouvons aussi être remplis du Saint-Esprit et faire avancer les choses. Oui, Pierre avait découvert qui était Jésus. Ce n'était pas un grand religieux, ce n'était pas un grand prophète, ce n'était pas un grand homme, c'est le Fils de Dieu. Et je veux, bien sûr, cibler sur chacun de nous. Vous, qui dites-vous qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus pour vous? L'autre jour, je discutais avec une chrétienne, pas ici, et on lui dit, mais vous savez, la parole de Dieu, c'est sérieux. Oh, elle me dit la parole, qui c'est qui l'a écrit de la parole? C'est que des hommes, vous savez, les hommes, ils disent ce qu'ils veulent. Moi, je ne crois pas tout dans la parole de Dieu. C'est pas vieux, ça date de 15 jours. Un dimanche, c'était. Et vous qui êtes là cet après-midi, qui est Jésus pour vous? Cette question, c'est Dieu qui la pose, donc il peut nous la poser. C'est comme quand Jésus pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il pose la question, c'est une question qu'il peut nous poser. Est-ce que dans mon cœur, cet après-midi, il y a cette foi que Jésus veut que nous ayons pour manifester sa volonté? Cette question, de toute façon, si on ne peut pas y répondre ici-bas, il faudrait y répondre quand même. Est-ce que c'est écrit que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que c'est écrit? Oui, tous les hommes, tous les hommes qui ont vécu sur la terre confesseront que Jésus-Christ est Dieu. Donc c'est la preuve que c'est une question, il vaut mieux s'y attabler vraiment sur la terre. Il faut y répondre. Et ce n'est pas au niveau intellectuel. Parce que là aussi, il y a un gros problème. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire, oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. On me l'a appris au catéchisme, que Jésus est le Fils de Marie, qu'il est né par l'opération du Saint-Esprit. Oui, je le sais. Mais vous savez, beaucoup de gens disent que Jésus est le Fils des dieux, est le Fils de Dieu, mais leur vie n'a absolument pas changé. Et je crois qu'au-delà de la question, au-delà de la réponse, il doit en être plus profond. Vous devez dire, mais est-ce que ma vie a changé? Car quand on apprend à connaître Jésus, on change. Lorsqu'on apprend à connaître Jésus, il y a une vie nouvelle. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui est chrétien, il change. Quelqu'un qui est chrétien, il naît de nouveau. La repentance, la conversion, ce n'est pas de l'intellectualisme, ce sont des choses profondes, concrètes, qui amènent un homme de suite à changer. Quand je vois, je vous assure, moi je vois des choses qui font pleurer. Des chrétiens qui se disent chrétiens et qui continuent à mentir. Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Mais non. Un chrétien qui est né de nouveau, il va se mettre à obéir à Dieu. Est-ce que c'est normal qu'un chrétien, qui se dit chrétien, vive dans le concubinage? Mais aujourd'hui, on accepte ça dans les églises, on baptise même les gens qui vivent dans le concubinage. Et je vous assure, vous savez, il viendra un temps où dans nos églises, on va baptiser les homosexuels. Écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien. Je peux vous le dire. Ce qui est la preuve que tout est mélangé, qu'il n'y a pas de repentance, qu'il n'y a pas de conversion. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas intellectualiser, dire oui, je le sais, vous m'apprenez rien. Je sais très bien que Jésus est le Fils de Dieu, il est plus qu'un prophète, ça je l'avais compris. D'accord, merci Seigneur, que nous ayons bien compris les choses. Mais est-ce que votre cœur a été touché par la prédication de la croix? Ou est-ce que vous rigolez avec la croix? La croix, c'est sérieux. La croix, c'est votre destin éternel qui s'est joué à la croix. Vous croyez que votre destin, vous, c'est il faut arriver jusqu'à 80 ans ou 90 ans, il faut avoir la santé, il faut avoir surtout la santé, j'ai une bonne mutuelle, oh là, c'est formidable. Je vais vous poser une question. Qui c'est qui va mourir en premier? Un vieillard, malade, en très mauvaise santé, faible, fatigué? Ou un jeune de 20 ans en pleine forme? Qui c'est qui va mourir en premier? Comment? Et oui, ça peut être le jeune. Bien sûr. Bien sûr que ça peut être le jeune. Dieu peut reprendre le jeune en très bonne santé avant le vieillard, faible, malade et fatigué. Il faut comprendre ces choses. C'est qu'à nous, on a une échelle de valeur qui nous éloigne de Dieu. Dieu peut reprendre quelqu'un en très bonne santé avant ce soir. Et quelqu'un qui est malade depuis 50 ans, il sera toujours vivant dans 10 ans. Parce que Dieu, il est souverain. Et c'est pour ça que la croix, on ne doit pas rire avec la croix. D'ailleurs, la Bible dit, mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus n'a pas posé des questions pour se faire voir et qu'on dise de lui, ah tiens, c'est ceci ou tiens, il est ça. Non, le Seigneur Jésus n'avait pas du tout besoin de cela. Il avait surtout à cœur d'amener tous les hommes à une profonde conviction que c'est bien de penser qu'il est le Fils de Dieu, mais c'est bien de passer par une profonde repentance. C'est pour ça que je vous ai fait lire dans Romains ce texte où Jésus dit, mais si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est ressuscité. Vous le croyez que Jésus est ressuscité? Vous le croyez qu'il est mort pour vous? L'histoire de la croix, c'est quelque chose de merveilleux. C'est pour ça que moi, je me réjouis quand des fois, même pendant les cultes, on ne chante des cantiques que sur le sang de Jésus, que sur la croix. Parce que nous nous réjouissons de nous rappeler continuellement ce que Jésus-Christ a fait sur le bois de la croix. Non, ce n'est pas une erreur judiciaire. On l'entend. Vous savez, à Noël, quand sortent tous les bouquins là, sur la... Lisez-en quelques-uns. C'est pathétique, pathétique. C'est pathétique. Le Seigneur Jésus-Christ, il était Dieu. Et il est venu sur la terre pour que vous soyez réconciliés avec le Père. Pour que quand vous partirez de cette terre, vous puissiez être accueillis dans la gloire, dans le paradis, puis après que vous viviez dans le millénium, et puis après dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Est-ce que le programme vous convient? Est-ce que c'est un bon programme, ça? Est-ce que c'est bien que des gens ont dit, oui, le meilleur est devant nous? Quel programme? Ce programme, il ne peut se réaliser qu'en Jésus-Christ. Il ne se réalise pas parce que vous êtes catholique, protestant, évangélique, pentecôtiste, mais parce que, véritablement, il y a eu une profonde repentance. Oui, il est le Fils de Dieu. Il est mon Sauveur. À mon baptême, j'ai confessé qu'il était le Christ. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est glorifié. Il règne. Et je veux lui obéir. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui est né de nouveau? Parce qu'il a pris le baptême et parce qu'il a changé de religion? Non. On reconnaît quelqu'un qui est né de nouveau au fait qu'il prie. Il prie de tout son cœur. Il sait que Dieu l'entend. Il prie que ta volonté soit faite. Est-ce que c'est votre prière? Est-ce que vraiment c'est votre prière? Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux t'honorer, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, je veux t'honorer dans ma vie de tous les jours. Ça, je ne le ferai pas. Ça, je ne le regarderai pas. Là, je n'irai pas parce que ça n'honore pas ton nom. Il y a des chrétiens qui regardent toutes sortes de saletés, toutes sortes de bêtises. Non, ils n'honorent pas Dieu. Quelqu'un qui est passé par la repentance et par la conversion, il a un désir profond, c'est celui de sanctifier le nom du Seigneur. Il en a besoin, il veut honorer son Dieu, pas le dimanche de 3h à 4h, pas le mardi soir à la réunion de prière, pas le dimanche matin au culte, oh je ne rentrerai pas le culte pour rien au monde, mais mes frères et sœurs, le désir jour et nuit, un chrétien, je crois qu'il est chrétien 24 heures sur 24. Vous êtes d'accord avec moi? Le jour et la nuit, un chrétien. À cela, on reconnaît quelqu'un qui peut dire, oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre a dit ça, et plus tard, il a dit, mais par rapport à notre question, il a dit, mais à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À quel autre irions-nous? Il y a une dame qui me disait l'an dernier, elle me disait, qu'est-ce que vous en pensez? J'étais dans une église, je n'étais pas ici, j'étais en vacances, et il y a une dame qui m'a vu, elle est venue me voir, elle me dit, ah, j'ai une question à vous poser. Mon mari, il vient de me dire ceci, ah, je voudrais être libre, je vais à l'église, mais je voudrais être libre, je ne suis pas libre de faire ce que je veux, j'aimerais fumer, le chrétien, hein. J'aimerais fumer, pour moi c'est ça la liberté. J'ai dit, écoutez, votre mari, il n'est pas converti. Et vous allez vite le vérifier, il va abandonner le Seigneur. Quand on commence à croire que la liberté, c'est fumer une cigarette, que c'est ça qui va vous rendre libre, je peux vous dire que ce chrétien-là, ça va être un esclave. Et hier, elle me rappelait pour me dire qu'il voulait demander qu'on l'aide parce qu'il n'arrivait pas à arrêter de fumer. Vous voyez, qu'il s'est rendu compte qu'il était un esclave. Mais quand on en arrive à croire que fumer, c'est être libre, laissez-moi vous dire que le gars, il n'est jamais passé par la conversion. Car quand on a été libéré et délivré par Jésus-Christ, on sait très bien que toutes ces choses ne peuvent que nous rendre esclaves. Qui dites-vous que Jésus est pour vous? Qui est Jésus pour vous? Vous pouvez répondre, vous pouvez lui répondre. Dire, Seigneur, moi, c'est le Seigneur de ma vie. Vraiment, il gouverne ma vie. J'attends qu'une chose, c'est d'être prêt à le rencontrer. Je veux que ce soit le moment le plus merveilleux de mon éternité. Quand je passerai devant Dieu, quand je le verrai, je veux entendre, entre bon et fidèle serviteur, je veux ces choses. Et si vous les voulez, vous les vivrez. Parce que je crois vraiment qu'un chrétien, il a la possibilité de vivre la Bible, de vivre la parole de Dieu. C'est quelque chose de sérieux. Alors, qui est Jésus pour vous? Est-ce que vous allez terminer cette réunion en disant « Oui, c'est le Fils de Dieu, il est Dieu, c'est Dieu en Christ qui est venu sur la croix, comment ne pas lui donner ma vie ?» Moi, je me souviens quand j'ai cédé, c'est quand un chrétien qui me parlait, je n'étais pas chrétien, mais du tout, et il me dit « Tu crois à l'incarnation ?» Alors j'ai regardé, j'ai dit et il m'a dit « Oui, l'incarnation, tu y crois ?» Mais je ne sais pas, la façon dont il m'a posé, pourtant j'allais souvent à la messe et tout, mais il m'a dit, mais tu crois à l'incarnation? Il m'a dit, tu crois que Jésus-Christ est Dieu? Et quand il m'a dit ça, je savais qu'on ne pouvait pas lutter. On ne peut pas lutter contre ça. Quand j'ai compris que Jésus-Christ était Dieu, je me suis dit, tu ne peux pas lutter, personne ne peut lutter. Quelle preuve d'amour, il n'y a pas de plus grande preuve. Si Dieu était vivant, si Dieu existait, vous entendez l'aveuglement. Mais moi, je peux vous dire que Dieu nous a prouvé son amour. Et que personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre, personne ne pourra dire que Dieu est injuste. En tous les cas, pas quand il passera devant lui. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il est mort sur la croix. Il a versé son sang. Lui qui, dans le jardin de Gethsémani, a dit à Pierre, mais tu sais pas, tu sais, je pourrais demander 12 légions d'anges. Vous savez, si Jésus n'avait pas voulu aller à la croix, je peux vous dire qu'il ne l'aurait pas été. Croyez-moi. Et ce n'est pas une erreur. Il a fait de tout son cœur. Il l'a fait pour vous sauver. Il l'a fait parce qu'il vous aime. Il pouvait, à n'importe quel moment de son ministère d'ailleurs, arrêter cette affaire et retrouver sa place d'honneur dans le ciel. Est-ce qu'à n'importe quel moment, il aurait pu dire « Je remonte au ciel, je reviens, je retrouve ma dignité de Dieu Tout-Puissant » Est-ce qu'il pouvait le faire? Mais bien sûr. Mais nous serions tous perdus. Et il a accepté. Qui dit-on que je suis? Qui dites-vous qu'il est? Qui est Jésus pour vous? Est-ce que vous croyez avec la tête? Ou est-ce que vous croyez avec votre cœur? C'est pour ça qu'il y a tant de déboires et tant de choses qui ne vont pas dans les églises. Parce que les gens, ils ont intellectualisé la croix. La croix, ça ne s'intellectualise pas. La croix, c'est dans le cœur. Ça m'a touché. Jésus m'a bouleversé. Jésus m'a touché. Qui veut être encore touché par la grâce de Dieu cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être touché? Moi, je vous assure, moi je veux l'être. Moi je veux être touché par la grâce divine. Parce que je crois que Dieu, il peut accorder grâce sur grâce. Vous le croyez? Alors on va fermer les yeux quelques instants. Il y a peut-être un enfant, un adolescent, quelqu'un qui dit, mais oui, je veux confesser de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur. Je veux confesser qu'en lui, je suis gratuitement justifié par son sang précieux. Nous allons chanter un cantique. Peut-être que pendant ce cantique, quelqu'un dira, moi, je veux que Jésus soit mon sauveur et mon Seigneur. Je veux être touché. Je ne veux pas croire avec ma tête. Je veux croire avec mon cœur. Je veux vivre ces choses. Oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À quel autre irions-nous? Mais où irions-nous? C'est clair, c'est impossible. Il n'y a rien de plus merveilleux que de marcher avec le Fils de Dieu. Alors, qui dites-vous que Jésus est pour vous? Notre Père, tu nous as laissé ta parole. Et chaque question que tu as pu poser dans l'Évangile ne peut que nous amener à réfléchir intelligemment sur ce qui va se passer. Mon Dieu, quelle grâce ne nous auras-tu pas accordé sur la terre d'entendre ta voix, de voir ton amour, de voir ce qui s'est passé au calvaire. Oui, tu aurais pu, à n'importe quel moment de ton existence, tu aurais pu retrouver ta place de fils de Dieu, de roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Et tu as été jusqu'au calvaire. Tu t'es laissé crucifier. Tu as versé son sang pour que nous puissions entrer dans ta présence. Merci, Seigneur, merci. Oh, nous te le dirons éternellement. Je ne sais pas les mots qu'on utilisera dans le ciel, mais il est certain que nous ne pourrons pas arrêter de te glorifier et de te louer pour le salut de nos âmes. Merci pour la croix, merci pour le calvaire. Oui, Seigneur, nous voulons prendre ces choses au sérieux, puisque c'est par ces choses que nous entrerons dans la gloire. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Peut-être quelqu'un éprouve le besoin de venir sur le devant, qu'on prie avec lui, pour lui. Quelqu'un dit, oui, c'est ma façon de me prendre position, de confesser. Alors, pendant ce chant que notre frère va nous interpréter, eh bien, si quelqu'un éprouve le besoin, venez sur le devant, on priera avec vous. Peut-être quelqu'un est malade, quelqu'un a besoin d'une délivrance. Est-ce que Dieu peut délivrer? Dieu sauve, mais vous comprenez bien que si Dieu sauve, à combien plus forte raison, il délivre, il guérit, il libère. Il est le Tout-Puissant. Il a reçu pouvoir sur toute chair. C'est lui qui l'a dit avant de remonter au ciel, que son nom soit béni.